Chapitre 22. Il alla bien vite changer de costume, puis descendit pour donner sa leçon à Kolia. Sipiagin, qu'il rencontra dans la salle à manger, lui fit un salut froid et poli, demanda du bout des lèvres s'il avait fait un bon voyage, et passa dans son cabinet. L'homme d'État avait déjà décidé dans son esprit de ministre que, dès la fin des vacances, il renverrait à Pétersbourg ce professeur positivement trop rouge, et qu'en attendant, il le surveillerait. « Je n'ai pas eu la main heureuse cette fois-ci, » se disait-il à lui-même, « mais, après tout, j'aurais pu tomber pire. » Les sentiments de Madame Sipiagin envers Nejdanov étaient beaucoup plus accentués et plus énergiques. Elle ne pouvait pas le souffrir. Ce gamin ne l'avait-il pas offensé? Marianne ne s'était pas trompée en pensant que c'était Madame Sipiagin qui les écoutait, elle et Nejdanov, dans le corridor. Oui, cette grande dame ne dédaignait pas de pareils moyens. Pendant les 2 jours qu'avait duré l'absence du jeune homme, elle n'avait pas eu d'explication avec son étourdi de cousine, mais elle lui faisait entendre à chaque instant qu'elle savait tout, qu'elle éprouvait moins d'indignation encore que de surprise, et que sa surprise même aurait été plus grande s'il ne s'y était mêlé un peu de mépris et un peu de pitié. En effet, un mépris intime et contenu gonflait ses joues, une sorte de raillerie mêlée de commisération relevait ses sourcils, pendant qu'elle regardait Marianne ou qu'elle causait avec elle. Ses yeux superbes s'arrêtaient avec une perplexité languissante, avec un air de dégoût attristé, sur cette fille présomptueuse qui, après tant de fantaisie et d'excentricité, en était arrivée à s'embrasser dans des chambres sombres avec le premier petit étudiant venu. Pauvre Marianne, ses lèvres rigides et fières n'avaient encore jamais subi le contact d'un baiser. Du reste, Valentine Mikhailovna ne parla pas à son mari de sa découverte. Elle se contentait d'accompagner les rares paroles qu'elle adressait à Marianne devant Sipiagin d'un sourire significatif qui n'était nullement motivé par le sens de ses paroles. Il lui arrivait même, par moments, de se repentir un peu d'avoir écrit à son frère. Mais, en fin de compte, elle aimait mieux se repentir et avoir écrit que de ne pas se repentir et de ne pas avoir écrit. Nejdanov ne vit Marianne qu'un moment dans la salle à manger, après le déjeuner. Il la trouva maigrie et pâlie. Elle n'était pas à son avantage ce jour-là. Mais le coup d'œil rapide qu'elle jeta sur lui à son entrée pénétra jusqu'au fond de son cœur. Quant à Madame Sipiagin, elle le regardait comme quelqu'un qui répète constamment en dedans « Bravo, parfait, très bien joué ». Et en même temps, elle essayait de deviner, à l'expression de son visage, si Markelov lui avait montré la lettre ou non. Elle finit par décider que oui. Sipiagin, apprenant que Nejdanov était allé voir la fabrique dirigée par Solomine, se mit à l'interroger sur cet établissement industriel si curieux à tous les points de vue. Mais il ne tarda pas à se convaincre, par les réponses du jeune homme, que celui-ci n'avait rien vu. Et il rentra dans un silence majestueux, comme se reprochant d'avoir attendu quelques renseignements sérieux de la part d'un sujet encore si peu développé. En quittant la salle à manger, Marianne eut le temps de dire tout bas à Nejdanov « Attends-moi dans le bosquet de bouleaux au bout du jardin. Je t'y rejoindrai dès que je pourrai. » « Elle aussi me dit tu, » pensa Nejdanov, « que c'était doux et inattendu et un peu bizarre et bon. » Et comme il aurait trouvé étrange, impossible, qu'elle recommençât à lui dire « vous », qu'elle s'éloigna de lui. Il sentait que cela eût été pour lui un vrai malheur. L'aimait-il d'amour, cette jeune fille? Il n'en savait rien. Mais il sentait, dans tout son être, qu'elle lui était devenue chère et intime et nécessaire, nécessaire surtout. Le bosquet où Marianne l'avait envoyé se composait d'une centaine de vieux et grands bouleaux, des bouleaux pleureurs pour la plupart. Le vent soufflait toujours aussi égal et aussi fort. Les longues touffes des fines branches se balançaient et s'agitaient comme des chevelures dénouées. Les nuages continuaient de courir vite et haut dans le ciel clair. Quand l'un d'eux passait sur le soleil, tout devenait non pas sombre, mais d'une même teinte. Mais le nuage s'envolait, et aussitôt, partout à la fois, des taches de lumière recommençaient à s'agiter tumultueusement. Vives et mobiles, elles oscillaient avec les taches d'ombre dans un désordre bigarré. Le bruit et le mouvement restaient les mêmes, mais il s'y était ajouté comme un air de joie et de fête. C'est avec la même violence joyeuse que la passion pénètre dans un cœur assombri et agité. Et c'était un cœur comme celui-là que Nejdanov apportait dans sa poitrine. Il s'appuya debout contre le tronc d'un bouleau et attendit. Il ne savait pas au juste ce qu'il éprouvait, et il ne désirait pas le savoir. Il se sentait à la fois plus inquiet et plus à l'aise que chez Markelov. Avant tout, il voulait la voir, lui parler. Ce lien qui lie ensemble, tout d'un coup, deux êtres vivants, l'avait déjà saisi. Nejdanov pensa à la mare qu'on lance du bateau au rivage quand un vapeur s'apprête à aborder. La voilà enroulée autour du poteau, et le bateau s'arrête. Il est arrivé au port, Dieu soit loué. Tout à coup, il tressaillit. Un vêtement de femme apparaissait au loin dans le sentier. C'était elle. Mais marchait-elle vers lui, s'éloignait-elle de lui? Il douta d'abord, puis il remarqua que les taches de lumière et d'ombre couraient de bas en haut sur son vêtement, donc elle s'approchait. Les taches auraient glissé de haut en bas si elle s'était éloignée. Quelques instants encore, elle était près de lui, devant lui, avec son visage animé et amical, un éclat caressant dans les yeux, un sourire faible mais gai sur les lèvres. Il saisit ses mains qu'elle lui tendait. La voix lui manqua. Elle non plus ne disait rien. Sa marche très rapide l'avait essoufflée, mais on voyait qu'elle se sentait heureuse de ce que lui était heureux de la voir. Ce fut elle qui parla la première. « Eh bien, dit-elle, parle vite. Qu'y a-t-il de décidé ?» Nejdanov parut surpris. « Décidé ? Mais nous n'avons rien à décider tout de suite. »« Oh, tu me comprends bien. Raconte-moi ce dont vous avez parlé. Qui as-tu vu ? As-tu fait connaissance avec Solomine ? Raconte-moi tout, tout. Mais attends, allons d'abord par là, je connais un endroit. Nous serons moins en vue. » Elle l'entraîna, et il la suivit docilement à travers l'herbe haute, rare et sèche. Elle le conduisit jusqu'à un endroit où gisait un grand bouleau abattu par quelque orage. Ils s'assirent sur le tronc. « Raconte, » répéta-t-elle. Mais elle ajouta aussitôt, « Ah, que je suis contente de te voir. Il me semblait que ces deux jours ne finiraient jamais. Tu sais, à présent, je suis certaine que Madame Sipiagine nous a entendus. » « Elle en a écrit à Markelov, » dit Nejdanov. À lui, Marianne se tut, et peu à peu son visage devint rouge, non de honte, mais d'un autre sentiment plus fort. « La méchante, la vilaine femme, » murmura-t-elle lentement. « Elle n'avait pas le droit de faire cela. Mais bah, qu'importe. Raconte, raconte-moi. » Nejdanov commença son récit. Elle l'écoutait, silencieuse, comme pétrifiée d'attention, et ne l'interrompait que quand elle le voyait se hâter et glisser sur les détails. Du reste, tous les incidents de son voyage n'avaient pas le même intérêt pour elle. Fomushka et Fimushka la faisaient rire, mais ne l'intéressaient pas. Leur manière de vivre était trop éloignée de ses idées. « C'est comme si tu me parlais de Nabucodonosor, ce que tu me racontes là, » lui dit-elle. Mais ce que disait Markelov, ce que pensait Golushkin lui-même, bien qu'elle eût compris au premier mot quel oiseau c'était, et surtout les opinions de Solomine et quel homme il était, voilà les choses qu'elle voulait savoir, voilà ce dont elle s'inquiétait. « Quand donc agirez-vous ? » « Quand ?» était la question qui lui traversait constamment la tête et qu'elle avait sur les lèvres pendant que Nejdanov parlait. Et lui, on eût dit qu'il évitait tout ce qui pouvait donner à cette question une réponse positive. Il finit par s'apercevoir lui-même qu'il appuyait précisément sur les détails auxquels Marianne s'intéressait le moins, et qu'il y revenait malgré lui. Ces descriptions humoristiques éveillaient l'impatience chez Marianne. Le ton désenchanté ou triste la peinait. Elle ne voulait entendre parler que de l'œuvre, de la question. Sur ce point, aucun discours ne lui semblait prolixe. Cela rappelait à Nejdanov le temps où il n'était pas encore étudiant et où, passant l'été à la campagne chez des amis, il avait eu l'idée de raconter les contes à leurs enfants. Eux non plus n'appréciaient ni les descriptions ni les récits d'impressions purement personnelles. Eux aussi demandaient de l'action, des faits. Marianne n'était pas une enfant, mais elle en avait les impressions vraies et simples. Nejdanov vantait sincèrement et chaudement Markelov et parlait de Solomine avec une sympathie toute particulière. Au milieu de ses discours enthousiastes, il se demandait à lui-même sur quoi il basait la haute opinion qu'il se faisait de cet homme. Solomine, en effet, n'avait rien dit de particulièrement remarquable, et certaines de ses paroles avaient même été directement à l'encontre de ses convictions à lui, Nejdanov. « C'est un caractère équilibré, se dit-il, voilà. C'est un homme exact, posé, frais, comme a dit Fimouchka. C'est un homme, une force tranquille et solide. Il sait ce qu'il veut, et il a confiance en lui-même. Et il éveille la confiance. Il ne se trouble jamais. L'équilibre, l'équilibre, voilà l'important. Et c'est justement ce qui me manque. » Nejdanov s'interrompit et resta plongé dans ses réflexions. Tout à coup, il sentit une main se poser sur son épaule. Il releva la tête, Marianne fixait sur lui un regard tendre et soucieux. « Mon ami, qu'as-tu ? » Il prit la main posée sur son épaule et baisa pour la première fois cette petite main, à la fois jolie et forte. Marianne eut un léger éclat de rire, comme étonnée que l'idée d'une telle amabilité lui fût venue à l'esprit. Puis à son tour, elle devint pensive. « Markelov t'a-t-il montré la lettre de Madame Sipiakine ? » demanda-t-elle enfin. « Oui. Et qu'a-t-il dit ? » ?»« Lui, c'est la générosité, l'abnégation en personne. Il, Nejdanov, allait parler à Marianne du portrait, mais il se contint, et se borna à répéter, « C'est la générosité même. » »« Oh, oui, oui. » Marianne redevint pensive, puis tout à coup, se tournant vers Nejdanov sur le tronc de bouleau qui leur servait de siège, elle lui dit vivement, « Ainsi donc, qu'avez-vous décidé ?» Nejdanov haussa les épaules. « Mais je te l'ai dit, jusqu'à présent, il n'y a rien de décidé. Il faut attendre encore. »« Attendre encore ? Attendre quoi ?»« Les dernières instructions. »« Je sais bien que je mens, » pensa Nejdanov. « De qui ?»« De, tu sais, de Vassili Nikolaïevitch. »« Et puis aussi, il faut attendre le retour d'Ostrodoumov. » Marianne regarda Nejdanov d'un air interrogateur. « Dis-moi, est-ce que tu l'as jamais vu, ce Vassili Nikolaïevitch ?»« Je l'ai vu deux fois, un petit moment. »« Eh bien, est-ce un homme remarquable ?»« Mon Dieu, que te dirais-je ? Il est notre chef, et c'est lui qui dirige tout. Sans discipline, notre œuvre ne marcherait pas. Il faut savoir obéir. Et tout cela aussi n'est que fadaise, » pensa de nouveau Nejdanov. « Comment est-il fait ? Il est petit, trapu, basané. Il a un visage rude, à pommettes saillantes, une tête de kalmouk. Mais les yeux sont très vifs. Et comment parle-t-il ? Il commande plutôt qu'il ne parle. Et pourquoi est-il le chef ? C'est un homme de grande volonté. Il ne cède devant personne. Il tuerait plutôt quelqu'un si c'était nécessaire. Bref, on a peur de lui. Et Solomine, comment est-il ? Demanda Marianne au bout d'un moment. « Solomine non plus n'est pas beau, mais il a une excellente figure, simple et loyale. On rencontre des têtes comme cela parmi les séminaristes, parmi les bons, s'entend. » Nejdanov décrivit Solomine en détail. Marianne regarda Nejdanov longtemps, longtemps. Puis, se parlant à elle-même, « Toi aussi tu as une bonne figure. Je crois qu'avec toi la vie doit être facile. » Ces paroles touchèrent Nejdanov, qui lui prit de nouveau la main et voulut la porter à ses lèvres. « Pas tant d'amabilité, » lui dit Marianne en riant. Elle riait toujours quand on lui baisait la main. « Tu ne sais pas, » continua-t-elle, « j'ai un pardon à te demander. »« Comment cela ?»« Voici. Pendant ton absence, je suis entré dans ta chambre et j'ai vu sur la table un petit cahier de poésie. » Nejdanov tressaillit. Il se rappela qu'il avait en effet oublié ce petit cahier sur sa table. Et, je te le confesse, je n'ai pas pu résister à ma curiosité et j'ai lu. « Ce sont des vers de toi, n'est-ce pas ?»« Oui, et sais-tu, Marianne, ce qui prouve mieux que toute autre chose, jusqu'à quel point je te suis attaché, et combien j'ai de confiance en toi, c'est que je ne suis presque pas fâché contre toi. »« Presque ? Cela veut dire que tu l'es un peu. »« À propos, tu m'appelles par mon petit nom. Moi, je ne peux pas t'appeler Nejdanov. Je t'appellerai Alexis. Et cette pièce de vers qui commence par ces mots, « Cher ami, quand je mourrai », elle est aussi de toi ? Oui, oui, seulement je t'en prie, ne parle plus de cela. Ne me tourmente pas. » Marianne secoua la tête. Elle est bien triste, cette poésie. J'espère que tu l'as écrite avant notre rencontre. Mais les vers sont bons, autant que j'en puis juger. Il me semble que tu aurais pu te faire écrivain. Mais ce dont je suis sûr, c'est que tu as une vocation meilleure et plus élevée que la littérature. Écrire était bon autrefois, quand autre chose était impossible. Nejdanov jeta sur elle un regard rapide. « Tu crois ? » ?»«
Oui, c'est vrai.
Mieux vaut périr là-bas que réussir ici. » Marianne se leva d'un élan. « Oui, mon ami, tu as raison, » s'écria-t-elle. Et son visage, embelli par l'attendrissement des sentiments généreux, s'enflamma tout à coup d'enthousiasme. « Tu as raison. Mais peut-être que nous ne périrons pas tout de suite. Nous aurons le temps. Tu verras, nous serons utiles, notre vie ne s'écoulera pas en vain, nous irons nous mêler au peuple. Sais-tu quelque métier ? Non, c'est égal. Nous travaillerons, nous leur apporterons à eux, à nos frères, tout ce que nous savons. Moi, s'il le faut, je me ferai cuisinière, couturière, blanchisseuse. Tu verras, il n'y aura aucun mérite à cela. Mais le bonheur, le bonheur ! Marianne se tut et son regard, fixé dans le lointain, non dans celui qui s'étendait devant elle, mais dans un autre lointain invisible, encore à venir, visible pour elle, son regard était brûlant. Nejdanov se pencha vers elle en s'inclinant jusqu'à ses genoux. « Oh, Marianne, murmura-t-il, je ne suis pas digne de toi. » Elle tressaillit tout à coup. « Il est temps de rentrer, vite, » s'écria-t-elle, « sans quoi on en verra encore à notre recherche. » Du reste, je crois que Madame Sipiagin a renoncé à s'occuper de moi. À ses yeux, je suis une perdue. » Marianne, en prononçant ce mot, avait sur son visage une expression de joie si radieuse que Nejdanov, le regard dans les yeux de la jeune fille, ne put s'empêcher le sourire en répétant « perdue ». « Seulement, elle est horriblement blessée, » continua Marianne, « de ce que tu te permets de n'être pas à ses pieds. Mais tout cela n'importe guère. » « Écoute, naturellement, je ne peux pas rester ici. Mais voilà, il faudra nous enfuir. »«
Nous enfuir ? » ?»«
Mais oui, nous enfuir. Tu ne voudrais pourtant pas rester, n'est-ce pas ? Nous partirons ensemble. Il faudra que nous travaillions ensemble. Tu viendras avec moi ?»«
Au bout du monde !» s'écria Nejdanov, et sa voix vibra soudainement sous le coup d'une émotion, d'une reconnaissance tumultueuse. « Au bout du monde !»
Dans ce moment-là, en effet, il serait allé avec elle, sans regarder en arrière, n'importe où elle l'aurait conduit. Marianne le comprit, elle poussa un soupir court et heureux. « Eh bien, prends ma main, seulement ne la baisse pas, et serre-la fortement en camarade, en ami. Comme ça, tiens !» Ils retournèrent ensemble à la maison, silencieux, calmes, contents. L'herbe nouvelle frôlait doucement leurs pieds. Les jeunes feuilles bruissaient tout autour. Les taches d'ombre et de soleil se mirent à courir en glissant sur leurs vêtements. Et tous deux souriaient à ce jeu rapide et changeant de la lumière, aux gaies bouffées de vent, aux frais miroitements du feuillage et à leur propre jeunesse. Et l'un à l'autre. Chapitre 23. L'aurore commençait déjà à poindre dans le ciel, lorsque Solomine, ayant allègrement parcouru ses 5 verstes après le dîner chez Golouchkine, frappa à la petite porte de la haute palissade d'enceinte qui entourait la fabrique. Le veilleur lui ouvrit aussitôt, et, accompagné de 3 énormes chiens de garde, qui agitaient largement leur queue velue, le conduisit dans son logement avec un empressement respectueux. Le retour du chef lui faisait évidemment plaisir. « Vous arrivez de nuit, monsieur Solomine. Nous ne vous attendions que demain. Ben, la promenade est encore plus agréable pendant la nuit. » Les rapports qui existaient entre Solomine et ses ouvriers étaient bons, quoiqu'un peu différents de l'ordinaire. Les ouvriers le respectaient comme un supérieur et se conduisaient avec lui comme avec un égal, comme avec un des leurs. Mais à leurs yeux, c'était un homme très fort dans sa partie. Quand Vassili Fedotov dit quelque chose, répétait-il entre eux, c'est sacré, parce que c'est un fier savant et il vous enfoncerait tous les aglitchans, anglais. Les ouvriers se rappelaient en effet qu'un grand manufacturier anglais était venu un jour visiter la fabrique. Et soit parce que Solomine avait causé avec lui en anglais, soit que réellement il apprécia l'étendue de ses connaissances, cet anglais avait frappé à plusieurs reprises sur l'épaule de Solomine, lui avait demandé en riant s'il voulait venir avec lui à Liverpool,
puis avait répété aux ouvriers, en son russe incorrect, « Lui, bonne, ao, très bonne !» Cela fit beaucoup rire les ouvriers, et ils disaient, non sans orgueil, « Ah, notre chef est un rude lapin, et il est des nôtres !» Le fait est qu'il était des leurs, qu'il était à eux. Le lendemain matin, Solomine fut éveillé par son favori Paul, qui, en l'aidant à s'habiller, lui donna quelques renseignements et lui en demanda d'autres. Puis ils prirent le thé ensemble rapidement. Solomine, ayant passé sa vieille jaquette de travail, descendit à la fabrique et sa vie se mit de nouveau à tourner régulièrement comme une roue de machine. Mais un nouveau temps d'arrêt lui était réservé. 5 jours après son retour, Solomine vit entrer dans la cour de la fabrique un élégant phaéton attelé de 4 superbes chevaux. Et aussitôt un laquais à livrée grissable, amené par Paul, lui remit solennellement une lettre à cachet armorié de la part de son Excellence le général Sipiaguine. Dans cette lettre, tout imprégnée, non de parfum, fit donc, mais d'une certaine senteur anglaise aussi distinguée que désagréable, dans cette lettre écrite à la 3e personne, il est vrai, mais de sa propre main de haut dignitaire, le noble seigneur du village d'Arjanoyé, s'excusant d'abord de s'adresser à un homme qui ne lui était pas personnellement connu, mais dont lui, Sipiaguine, avait entendu faire l'éloge de la façon la plus flatteuse, prenait la liberté d'inviter chez lui M. Solomine, dont les conseils pourraient lui être d'une fort grande utilité au sujet d'une importante entreprise industrielle. Et dans l'espérance que M. Solomine aurait l'amabilité d'accepter son invitation, il lui envoyait un équipage. Dans le cas cependant où M. Solomine serait dans l'impossibilité de s'absenter ce jour-là, il le priait de vouloir bien lui indiquer un autre jour quelconque, à sa convenance, et alors lui, Sipiaguine, mettrait avec empressement son équipage à la disposition de M. Solomine. Puis venaient les formules d'usage, suivies d'un élégant paraphe tout à fait digne d'un ministre, et absolument incompréhensible, cela va sans dire, pour tout autre qu'un initié. La lettre était terminée par un post-scriptum à la 1e personne, cette fois. « J'espère que vous ne refuserez pas de venir dîner sans cérémonie en redingote. » Les mots « sans cérémonie » étaient soulignés. En même temps que cette lettre, le laquais grissable, non sans quelque hésitation, présenta à Solomine un simple billet, pas même cacheté. Ce billet, écrit par Nejdanov, ne contenait que quelques mots. « Venez, je vous en prie, on a grand besoin de vous ici, et vous pouvez rendre un grand service. » Mais non pas à M. Sipiaguine, cela va sans dire. En lisant la lettre de Sipiaguine, Solomine se dit « Parbleu, je serais bien en peine d'aller autrement que sans cérémonie. Je n'ai jamais eu de frac, moi. Et pourquoi diable me ferais-je traîner là-bas? Pour perdre du temps, rien de plus. » Mais quand il eut ouvert le billet de Nejdanov, il se gratta la nuque et, tout irrésolu, s'approcha de la fenêtre. « Quelle réponse monsieur daignera-t-il donner ?» lui demanda respectueusement le laquais grissable. Solomine resta encore un moment à la fenêtre, puis enfin, secouant ses cheveux et passant sa main sur le front, il répondit « Je pars. Donnez-moi le temps de changer de costume. » Le laquais sortit d'un air digne. Solomine fit appeler Paul, causa avec lui et courut encore une fois à la fabrique. Ayant revêtu une redingote noire à taille trop longue, cousue par un tailleur du cru, et s'étant coiffé d'un chapeau cylindre un peu roussi, qui lui donna immédiatement un air tout raide, il monta dans le phaéton. Mais tout à coup il se souvint qu'il n'avait pas pris de gants. Il appela l'omniprésent Paul, qui alla lui chercher une paire de gants en peau de thym, récemment lavés, dont chaque doigt élargi au bout avait l'air d'un biscuit. Solomine fourra les gants dans sa poche et dit qu'on pouvait partir. Aussitôt, le laquais, avec une énergie aussi imprévue qu'inutile, bondit sur le siège, le cocher bien stylé poussa un cri en fausset pour exciter le chevaux et l'équipage s'ébranla. Pendant que Solomine roulait vers le domaine de Sipiaguine, l'homme d'État, assis dans son salon avec une brochure politique à demi coupée sur les genoux, causait avec sa femme au sujet du jeune fabricant. Il lui avait écrit, disait-il à sa femme, pour essayer de lui faire lâcher la filature du marchand de Moscou et de l'amener à se charger de sa fabrique à lui, qui allait de mal en pis et qu'on devrait réorganiser de fond en comble. Sipiaguine n'admettait pas l'idée que le jeune homme refuserait de venir ou même renverrait son voyage à un autre jour, bien que dans sa lettre il lui en eût laissé le choix. « Mais nous avons une fabrique de papier et c'est une filature qu'il dirige », lui fit observer Madame Sipiaguine. C'est égal, ma chère. Il y a des machines là-bas comme ici, et Solomine est un mécanicien.
Mais qui sait, peut-être que c'est un spécialiste.
Ma chère, d'abord en Russie, il n'y a point de spécialiste, et ensuite, je te le répète, il est mécanicien.
Madame Sipiagin sourit.
Sois prudent, mon ami. Tu as déjà eu du malheur avec les jeunes gens, pourvu que cela n'arrive pas une seconde fois.
C'est à Nejdanov que tu fais allusion.
Mais après tout, il me semble que j'ai atteint mon but.
Comme répétiteur pour Kolia, il est parfait.
Et puis tu sais, non bis in idem.
Pardonne-moi mon pédantisme. Cela veut dire que la même chose ne se répète pas.
Tu crois? Et moi je pense que dans ce monde, tout se répète. Surtout ce qui est dans la nature des choses, et surtout entre jeunes gens.
Que voulez-vous dire? Demanda Sipiagin en jetant d'un geste arrondi sa brochure sur la table.
Ouvrez les yeux et vous verrez, répondit-elle. Quand il parlait français, il se disait vous, naturellement.
Fit Sipiagin, c'est de ce petit étudiant que tu parles?
De monsieur l'étudiant, oui.
Est-ce qu'il s'est fourré là-dedans? Il tapota de ses doigts sur son front.
Quelque chose, hein?
Ouvre les yeux.
Marianne, hein?
Ce second, hein, fut dit d'un ton plus nasillard que le premier.
Ouvre les yeux, je te dis.
Sipiagin fronça les sourcils.
Bon, nous éclaircirons tout cela plus tard. Pour le moment, voici ce que je voulais te dire. Ce Solomine, probablement, sera un peu intimidé. C'est bien naturel. Le manque d'habitude. Il faudra tâcher d'être aimable pour ne pas l'effaroucher.
Ce n'est pas pour toi que je dis cela. Toi, tu es une perle, et quand tu veux, tu ensorcelles ton monde en un clin d'œil.
J'en sais quelque chose, madame.
Mais je dis cela pour les autres, par exemple pour celui-là.
Il montra du doigt un chapeau gris à la dernière mode, déposé sur une étagère.
Ce chapeau appartenait à Kalometsev, qui se trouvait à Arjanoye depuis le matin.
Il est très cassant, tu sais. Il méprise absolument le peuple, ce que je condamne absolument.
En outre, depuis quelque temps, je remarque chez lui une sorte d'irritation, une tendance agressive.
Est-ce que ses affaires, là-bas?
Sipiagin fit d'un mouvement de tête une indication vague, mais sa femme le comprit.
Marcherait mal, hein?
Ouvre les yeux, je te le répète.
Sipiagin se redressa.
Hein? Ce « hein » était tout différent, prononcé sur un ton beaucoup plus bas.
Ah, bah! Mais alors, il pourrait arriver que je les ouvrisse trop.
Qu'on y prenne garde.
C'est ton affaire. Quant à ton nouveau jeune homme, s'il arrive aujourd'hui, sois tranquille. On prendra toutes les mesures de précaution.
Or, il se trouva que toutes les mesures de précaution étaient parfaitement inutiles.
Solomine ne fut ni intimidé, ni effarouché.
Quand le domestique l'annonça, Sipiagin se leva immédiatement et s'écria à haute voix, de façon à être entendu de l'antichambre, « Faites entrer, ça va sans dire, faites entrer !»
Puis il se dirigea vers la porte du salon et s'arrêta tout près de l'entrée.
À peine Solomine eut-il franchi le seuil que Sipiagin, qu'il avait failli heurter, lui tendit les deux mains et, balançant la tête à droite et à gauche, avec un aimable sourire, lui dit d'un air charmé, « Ah, voilà qui est gentil de votre part. Que de reconnaissance je vous ai !» Et il le conduisit aussitôt à Madame Sipiagin.
« Voilà ma petite femme, » dit-il en appuyant doucement la main sur le dos de Solomine, comme pour le pousser vers sa femme.
« Ma chère amie, je te présente le premier mécanicien et le premier chef de fabrique de ce gouvernement. Vassili, il hésita, Fedoseïtch, Solomine. »
Madame Sipiagin se dressa légèrement, leva avec grâce ses belles paupières, sourit d'abord au jeune homme d'un air bon enfant, comme à une vieille connaissance, puis tendit vers lui sa petite main, la paume en dessus, le coude serré contre le corps, la tête un peu penchée du côté de cette main, comme si elle demandait une petite aumône.
Solomine laissa au mari et à la femme le temps de terminer leur petite façon, serra la main à tous les deux, et s'assit dès la première invitation.
Sipiagin lui demanda alors, avec sollicitude, s'il ne voulait rien prendre.
Mais le jeune homme répondit qu'il n'avait besoin de rien, qu'il n'était nullement fatigué du voyage, et qu'il se mettait entièrement à sa disposition.
« Alors, on pourrait donc vous prier de bien vouloir visiter la fabrique ?» demanda Sipiagin, de l'air de quelqu'un qui avait peur d'être indiscret, et qui n'osait pas croire à une telle complaisance de la part de son hôte.
« Tout de suite, si vous voulez, » répondit Solomine.
« Ah, que vous êtes obligeant. Voulez-vous qu'on attelle un drojki?
Vous préférez peut-être aller à pied. Mais votre fabrique, je suppose, n'est pas loin d'ici.
Une demi-verste, tout au plus.
Alors, à quoi bon faire atteler ?
Allons, très bien. Mon chapeau, ma canne, vite. Et toi, ma petite ménagère, mets-toi en mouvement, mon chapeau.
Sipirguine s'agitait beaucoup plus que son hôte. Il répéta encore une fois, « Eh bien, ce chapeau !» Et lui, un grand dignitaire, il bondit dehors comme un écolier turbulent.
Pendant que son mari avait causé avec Solomine, Madame Sipirguine avait regardé à la dérobée, mais attentivement, ce nouveau jeune. Assis tranquillement dans un fauteuil, les deux mains nues posées sur ses genoux, il n'avait décidément pas mis ses gants, Solomine considérait tranquillement, mais avec curiosité, les meubles, les tableaux.
« Qu'est-ce que ça veut dire ? » pensait-elle. « C'est un plébéien. C'est un plébéien, un vrai plébéien. Et pourtant, comme il a une tenue simple. »
En effet, Solomine se tenait très simplement, non pas comme les gens qui, tout en s'efforçant de paraître naturel, désirent qu'on le remarque, mais comme un homme dont les pensées et les sentiments sont très peu compliqués, mais forts.
Madame Sipirguine voulut entamer une conversation, mais, à sa grande surprise, elle eut de la peine à trouver quelque chose à dire.
« Ah, ça, pensa-t-elle, est-ce que cet ouvrier de fabrique m'en imposerait ?»«
Mon mari, commença-t-elle enfin, vous doit beaucoup de reconnaissance pour le temps précieux que vous voulez bien lui sacrifier. »«
Il n'est pas très précieux, madame, répondit-il, et puis je ne suis venu ici que pour un moment. » »«
Voilà où l'ours a montré sa patte, pensa-t-elle en français. »
En ce moment, son mari réapparut sur le seuil de la porte restée ouverte, un chapeau sur la tête, un stick à la main. Se tournant à demi, il dit d'un air détaché, « Vassili Fedoseïtch, je suis à vos ordres. »
Solomine se leva, salua la dame et suivit Sipirguine.
« Par ici, suivez-moi, par ici, » répétait Sipirguine, comme s'il se fût trouvé dans une forêt vierge et que Solomine eût eu besoin d'un guide.
« Faites attention, il y a des marches, Vassili Fedoseïtch. »
« Puisque vous voulez bien m'appeler par mes prénoms, » dit Solomine sans se presser, « je ne suis pas Fedoseïtch, mais Fedotitch. »
Sipirguine le regarda par-dessus l'épaule avec une sorte d'effroi.
« Ah, je vous demande pardon, Vassili Fedotitch. »
« Oh, ça ne fait rien du tout. »
Au moment où ils sortaient de la maison, ils rencontrèrent Kalomeitsev.
« Où allez-vous comme ça ? » demanda-t-il à Sipirguine en jetant un regard de travers sur Solomine.
« À la fabrique ?»
« C'est là l'individu en question ? » demanda-t-il en français.
Sipirguine ouvrit de gros yeux et secoua légèrement la tête pour l'engager à la prudence.
« Oui, à la fabrique. Montrez mes péchés et mes misères à monsieur le mécanicien que voilà. Permettez-moi de vous présenter monsieur Kalomeitsev, un propriétaire de nos voisins, monsieur Solomine. »
Kalomeitsev fit un ou deux hochements de tête presque imperceptibles sans se tourner du côté de Solomine. Lui, au contraire, regarda fixement Kalomeitsev, et quelque chose de particulier passa dans ses yeux à demi fermés.
« Peut-on vous accompagner ? » demanda Kalomeitsev.
« Vous savez que j'aime à m'instruire. »«
Sans doute. »
Ils débouchèrent de la cour sur le chemin. À peine avaient-ils fait 20 pas qu'ils aperçurent le prêtre de la paroisse, qui, sa soutane retroussée, retournait au presbytère. Kalomeitsev se détacha du groupe, marcha à pas ferme et rapide vers le prêtre, qui ne s'attendait pas à cela, et qui se sentit un peu intimidé. Lui demanda sa bénédiction, mit sur sa main rouge et couverte de sueur un baiser retentissant, et se tournant vers Solomine, lui jeta un regard provocateur. Évidemment, il avait des données sur le nouveau venu. Il voulait donner une leçon à ce manant qu'on disait être si savant.
« C'est une manifestation, mon cher, » lui dit Sipirguine entre ses dents.
Kalomeitsev se rebiffa. « Oui, mon cher, une manifestation nécessaire par le temps qui court. » Arrivé à la fabrique, ils furent reçus par un petit Russien à immense barbe et à fausses dents qui avait remplacé l'intendant allemand définitivement chassé par Sipirguine. Ce petit Russien n'était là que provisoirement. Il paraissait absolument incapable. Il se bornait à répéter à tout propos « Voilà !» ou « S'il plaît à Dieu », et soupirait à chaque instant. L'inspection de la fabrique commença. Plusieurs ouvriers connaissaient Solomine de vue et le saluaient. Il dit même à l'un d'eux « Ah, bonjour Grégoire, tu es ici ?» Il ne tarda pas à se convaincre que l'affaire était mal dirigée. On avait dépensé beaucoup d'argent, mais sans discernement. Les machines étaient de mauvaise qualité. Il y avait beaucoup de choses inutiles et superflues,
tandis que beaucoup de choses nécessaires manquaient. Sipiagin regardait constamment Solomine dans les yeux pour deviner son opinion. Il lui faisait des questions timides. Il lui demanda si, au moins, il trouvait qu'il eût assez d'ordre. « L'ordre y est bien, » répondit Solomine. « Mais y a-t-il des revenus ? J'en doute. » Sipiagin et même Kalomeitsev sentaient que le jeune homme était dans cette fabrique comme chez lui, que tout lui était connu et familier jusque dans les moindres détails. Il posait la main sur une machine comme un cavalier pose la sienne sur le cou de son cheval. Il touchait une roue du bout du doigt, et la roue s'arrêtait ou se mettait à tourner. Il prenait à la cuve, dans le creux de sa main, un peu de la pâte avec laquelle on fait du papier, et aussitôt cette pâte montrait tous ses défauts. Il ne parlait guère. Il ne regardait même pas l'intendant petit Russien. Il sortit de la fabrique sans prononcer une parole. Sipiagin et Kalomeitsev marchaient derrière lui. Sipiagin ne permit à personne de l'accompagner. Il tapa même du pied et grinça des dents. Il avait l'air complètement déconfit. « Je vois à votre air, dit-il enfin au jeune homme, que vous n'êtes pas content de ma fabrique. Et je sais bien, moi, qu'elle n'est pas dans de bonnes conditions, qu'elle est d'un mauvais rapport. Mais dites-moi au juste, je vous en prie, sans cérémonie, quels sont ses principaux défauts, et que pourrait-on faire pour les corriger ?»« La fabrication du papier n'est pas de mon ressort, répondit Solomine. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les établissements industriels ne sont pas l'affaire des gentilshommes. » « Vous regardez ces occupations comme humiliantes pour les gentilshommes ?» lui dit Kalomeitsev. « Oh non, pas du tout. Qu'y a-t-il d'humiliant là-dedans ? Du reste, quand même il y aurait quelque chose de semblable, la noblesse n'est pas à cela près. »« Quoi ? Comment ? Je veux dire simplement, continua Solomine d'un air paisible, que les nobles ne sont pas habitués à ce genre d'occupation. Il faut pour cela avoir un esprit commercial, mettre tout sur un autre pied. » Il faut avoir de la suite et de la patience. Les nobles n'entrent pas dans ces considérations. Aussi, que voit-on toujours et partout ? Ils établissent des fabriques de draps, de papier, des filatures. Et, au bout du compte, dans les mains de qui toutes ces fabriques tombent-elles ? Dans les mains des marchands. C'est dommage, car les marchands sont de vrais sangsues. Mais il n'y a rien à y faire. « À vous entendre, s'écria Kalomeitsev, nous autres nobles, « nous ne pouvons rien comprendre aux questions financières ?»« Oh, bien au contraire, les nobles sont passés maîtres en fait de finances, d'un certain genre. Quémander et recevoir des concessions de chemin de fer, organiser des banques, obtenir des monopoles, et tout ce qui s'ensuit, personne ne vaut les nobles pour cela. Ils constituent de cette façon de grands capitaux. C'est à cela que je faisais allusion quand vous avez pris la peine de vous fâcher. Mais je parle des entreprises industrielles régulières. Car ouvrir des cabarets, des boutiques d'échange au détail, prêter du blé ou de l'argent aux paysans avec des intérêts de 100 ou 150%, comme le font en ce moment-ci beaucoup de propriétaires nobles, ce ne sont pas là, selon moi, des opérations financières dans le vrai sens du mot. Kalomeitsev ne répondit rien. Il appartenait précisément à cette nouvelle race de propriétaires usuriers, dont Markelov avait parlé dans son dernier entretien avec Nechtanov, et il était d'autant plus inhumain dans ses exigences qu'il n'avait jamais affaire directement avec les paysans, auxquels l'entrée de son cabinet parfumé était naturellement interdite, et qu'il ne communiquait avec eux que par l'intermédiaire d'un commis. En écoutant le discours que le jeune homme laissait tomber de ses lèvres lentement et comme avec indifférence, il bouillait intérieurement. Mais pour cette fois, il ne dit mot, et seul le jeu des muscles de ses joues produit par la pression convulsive des mâchoires, laissait deviner ce qui se passait en lui. « Pourtant, permettez, monsieur Solomine, répliqua Sipiagin, tout ce dont vous parlez là était parfaitement juste dans les temps passés, quand les nobles jouissaient de droits tout différents, quand ils se trouvaient, en général, dans une autre situation. Mais maintenant, après toutes les bienfaisantes réformes qui se sont accomplies dans notre époque industrielle, pourquoi les nobles ne pourraient-ils pas tourner leur attention, leur capacité, enfin, vers de pareilles entreprises ? Pourquoi ne seraient-ils pas capables de comprendre ce que comprend un simple marchand parfois illettré ? Il ne manque pourtant pas de développement intellectuel, et même on peut affirmer avec une certitude à peu près absolue qu'ils sont, jusqu'à un certain point, les représentants de la civilisation et du progrès. Sipiagin parlait très bien. Son éloquence aurait eu un grand succès n'importe où, à Pétersbourg, dans une section du ministère, ou même plus haut. mais il ne produisit pas la plus légère impression sur Solomine. « Les nobles ne peuvent pas manier ces sortes de choses, » répéta-t-il encore une fois.
« Mais pourquoi donc? Pourquoi ?» cria Kalomeitsev.
« Parce que les nobles sont de véritables employés, des tchinovniks. »«
Des tchinovniks ?»
Kalomeitsev eut un ricanement caustique.
« Vous ne vous rendez probablement pas compte, monsieur Solomine, de ce que vous avez voulu dire. »
Solomine continuait de sourire.
« Pourquoi pensez-vous cela, monsieur Kolomentsov ?»
Kalomeitsev fit un soubresaut en entendant mutiler ainsi son nom.
« Soyez sûr que je m'en rends parfaitement compte, toujours. »
« Alors, expliquez ce que vous entendez par cette phrase. »
« Voici. À mon point de vue, tout tchinovnik est et fut toujours un étranger, un intrus. Et les nobles, actuellement, sont devenus des étrangers et des intrus. »
Kalomeitsev se mit à rire de plus belle.
« Veuillez m'excuser, mon cher monsieur, mais je ne comprends rien du tout à ce que vous avancez là. »
« Tant pis pour vous. Faites un effort, et vous comprendrez peut-être. »
« Monsieur !»«
Messieurs, messieurs !» se hâta de dire Sipiagin en se donnant l'air de chercher des yeux quelqu'un qu'il ne trouvait pas.
« Je vous en prie, de grâce. »
« Kalomeitsev, je vous supplie de vous calmer. »
« Mais le dîner doit être prêt, ou peu s'en faut. Suivez-moi, je vous en prie, messieurs. »
5 minutes après, Kalomeitsev, entrant comme une bombe dans le cabinet de Madame Sipiagin, s'écriait
« Valentine Mikhailovna, si vous saviez ce que votre mari a fait, un nihiliste s'était introduit chez vous, et voilà qu'il en amène un autre. Et celui-là est encore pire que le premier. »
« Pourquoi donc ?
Pourquoi ? Il énonce Dieu sait quelles opinions. Et puis, remarquez ceci, il a causé pendant une heure entière avec votre mari, et il ne lui a pas dit une seule fois votre excellence. Le vagabond !»